La vraie contrition des péchés. Écoute-moi, dit Jésus, attentivement, écoute mes paroles, pour bien me comprendre. Je te parlerai d'un sujet très important, pour que ceux qui se trompent puissent obtenir de moi le pardon. J'entends te parler de la contrition des péchés. Le regret d'avoir commis une faute est la condition indispensable pour que le Seigneur puisse te pardonner. Et c'est logique. Même entre vous, il est beaucoup plus facile que vous vous pardonniez quand le coupable se montre triste et plein de regrets pour le mal qu'il a commis. Cependant, le regret d'avoir offensé Dieu est plus ou moins efficace selon la manière dont il est ressenti. Vous exprimez la souffrance et la douleur au moyen des larmes. Elles sont un don précieux, car elles soulagent le cœur affligé en même temps qu'elles en expriment l'angoisse. Mais il y a aussi des larmes inutiles, que vous avez l'habitude d'appeler des larmes des crocodiles, quand elles ne sont pas accompagnées de la résolution de ne pas retomber dans les fautes dont vous vous accusez. C'est une peine, la vraie contrition des péchés, que l'on peut exprimer aussi par les larmes, comme l'a fait Saint Pierre, pleurant amèrement après son reniement. N'est pas une douleur sensible, quoique souhaitable, cette douleur sensible n'est pas exigée. La contrition est une souffrance et elle est la conséquence d'un raisonnement. Ce dernier te fait voir la grandeur de Dieu qui est l'offensé et ta propre indignité, la laideur du péché et la beauté de la grâce, le châtiment qui t'attend et la récompense que tu as perdue. Il t'incite à te proposer à toi-même, devant Dieu, de ne plus jamais vouloir l'offenser. Peut-être pourras-tu prévoir aussi que ta faiblesse t'induira à de nouvelles chutes et tu les regrettes. Pour ce qui dépend de toi, tu t'engages à fuir les dangers des péchés, au moins le danger prochain. Si ce n'est que la crainte de l'enfer qui te fait détester le péché, c'est une contrition imparfaite, qui par elle-même ne peut effacer le péché qu'à travers le ministère sacramentel dans les sacrements de pénitence. Remercie-moi de tout cœur d'avoir institué ce sacrement de la miséricorde, dit Jésus, qui peut redonner à l'âme lumière et pureté grâce à ce bain salutaire dans mon sang, dans le sang de Marie, puisque c'est elle qui me l'a donné. Êtes reconnaissant envers ceux qui donnent leur sang avec générosité, même en quantité minime, pour qu'il puisse servir à celui qui en manque ou est dans le besoin. Eh bien, moi, j'ai versé tout mon sang jusqu'à la dernière goutte pour vous, et dans les sacrements de pénitence, je l'emploie pour acheter vos âmes. Ne gaspillez pas mon don. Une confession mal faite est un péché de plus. Apportez à la confession un cœur repentant. Il n'est pas de péché, si grand soit-il, que ma miséricorde ne puisse pardonner, dit Jésus. C'est vrai, mais il ne vous est pas possible de recevoir la bonté et la miséricorde de Dieu si vous vous préparez à ce sacrement avec légèreté et de ce fait en commettant d'autres fautes. Le ferme propos, la confession ne consiste pas tellement à vider son sac, mais plutôt à se remplir de grâce. Mais comment le Seigneur pourra-t-il vous donner sa grâce si vous ne la lui demandez pas, si vous ne l'appréciez pas et n'éprouvez pas le regret de l'avoir perdue? Ne gaspillez pas les dons de Dieu. Je vous le répète, dit Jésus, pour ne pas ajouter les péchés aux péchés. La vraie contrition est inséparable du ferme propos qui en est la conséquence logique. C'est pourquoi apporte en confession tes résolutions bien définies. À quoi te sert de savoir que le feu brûle, que tu te sois brûlé maintes fois, si ensuite tu continues à t'y exposer, soit en te jetant dedans, soit en rasant les flammes? Il est préférable pour toi de t'en écarter, de te prémunir pour éviter le danger déjà expérimenté d'autrefois. D'après tout ce que je t'ai dit, tu peux comprendre combien des confessions, surtout en cette période pascale, sont faites de manière indigne et pour cette raison sont de véritables sacrilèges. On n'exige pas de larmes pour une vraie contrition, mais quelle peine cela me fait d'en voir gaspiller pour tant de motifs futiles. Vous vous affligez au point de pleurer amèrement pour une perte matérielle, un intérêt qui va à la déroute, une contrariété ou une petite offense, et vous ne réfléchissez pas à quel point est grave la perte de Dieu, de son amitié, de son amour et de son paradis. Répentez-vous, mes enfants, que vos cœurs durs comme la pierre se ramollissent et qu'ils en jaillissent des larmes de repentir. Demandez-moi la contrition de vos péchés comme le don le plus beau. Elle est le moyen de renouer et de conserver vos relations d'amour avec moi, dit Jésus. Simplicité et sincérité. Que ce soit une contrition sincère qui vous incite à exposer vos fautes à votre confesseur avec simplicité, sincérité et clarté. Car au-dessus de la main du prêtre qui peut vous absoudre, même si votre accusation est fausse, se tient la main de Dieu qui peut vous refuser l'absolution. Ne craignez pas les reproches d'un homme, même s'il est mon ministre, mais craignez le blâme sévère de Dieu qui parle en votre conscience. N'oubliez pas que j'ai pardonné son péché à Pierre, que j'ai pardonné les leurs à Marie-Madeleine et à la femme adultère. Après un repentir si sincère et si profond, j'ai confié à Pierre mon Église, qui dans ses ministres a reçu l'ordre de pardonner, non pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire un nombre infini de fois. J'ai pardonné à Madeleine parce que l'amour qu'elle m'a porté après sa conversion a été tellement grand qu'il méritait d'être rappelé dans le monde entier et au cours de tous les siècles. J'ai pardonné à la femme adultère, et si tu t'en souviens bien, en la congédiant, je lui ai dit, va en paix et ne pêche plus. Voici ce que je te demande, à toi et à tous ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence. Un repentir sincère, fait d'amour et de la volonté de ne plus retomber dans la faute. Alors la paix, la lumière, la joie entreront dans les cœurs. La vie vous semblera moins pesante, les peines plus supportables, et ces peines seront la pénitence la plus efficace. Unie à celle donnée par le prêtre, elle servira à effacer la peine réservée au purgatoire aux âmes qui n'ont pas eu une contrition vraiment parfaite de leur faute. La paresse spirituelle. Maintenant, dit Jésus, la leçon que tu vas commencer roulera sur le thème de la paresse ou indolence spirituelle. Elle est comme une somnolence de l'âme qui la rend incapable d'opérer le bien et de réagir contre le mal. C'est comme une torpeur spirituelle qui fait paraître toute chose difficile et remplie de trop de difficultés, ce qui ne réclame qu'un petit sacrifice. Alors que la ferveur, les ailes et l'enthousiasme donnent à l'âme des ailes pour aller de l'avant dans les voies de Dieu, la paresse, elle, opère le contraire et détruit toute capacité d'élévation. Alors, je te dis, garde-toi bien de ce défaut, car il entre insensiblement dans les esprits, y apportant ce repos spirituel qui te laissera tranquille dans tes défauts, indifférent aux besoins de ton prochain. Et sois sûr aussi que le démon se réjouit beaucoup de cet état de choses, car il ne lui est pas difficile d'entraîner en des états bien pires une âme qui est comme tombée en léthargie. C'est pourquoi efforce-toi de rester toujours en éveil et actif. Car de même que ton corps a besoin des mouvements et des gymnastiques qui le rendent souple et apte à supporter la fatigue et le travail, de même ton âme a besoin de souplesse spirituelle pour s'élever jusqu'au ciel. Elle en a besoin pour pratiquer les vertus que Dieu veut qu'elle pratique et pour demeurer toujours en éveil, dans l'attente des ordres, ou au moins attentive à exécuter et à réaliser mes désirs, les désirs de Dieu, dit Jésus. En éveil et active, je te rappelle la parabole que je t'ai racontée dans l'Évangile, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. les comportements des vierges folles qui, tout en sachant que l'époux doit arriver, s'endorment avec insouciance, se reposant même sur la pensée qu'elles se feront aider par autrui, est vraiment l'image des âmes paresseuses. Elles laissent manquer leur lampe de la flamme de l'amour, de l'huile de l'oraison, du désir de la rencontre avec l'époux et de la vigilance sur leur sens pour qu'au dernier jour la rencontre avec Dieu les trouve prêtes. C'est pourquoi veille toujours avec une ardeur renouvelée sur tout ce qui regarde ta vie spirituelle, avec précision, avec régularité, et ne néglige pas facilement tout ce qui peut te porter au bien et à la vertu, mais sois constant et fidèle dans ce que tu te proposes. Tu peux interrompre tes bonnes habitudes, mais seulement quand l'exige la charité, ou le manque de santé, ou une véritable nécessité. Que ce ne soit jamais par indolence ou froideur spirituelle. Elle te conduirait à la tiédeur, et peu à peu à l'indifférence, et même au manque de foi et d'amour. Si tout cela te coûte des sacrifices, rappelle-toi que c'est aussi une source de joie, car on a dit avec justesse que rester avec Jésus est un doux paradis. En effet, je ne me la laisse jamais vaincre en générosité, et à celui qui volontiers se sacrifie pour rester près de moi, dit Jésus, et pour me suivre, j'accorde des dons spéciaux et de joie spirituelle en comparaison desquels les biens passagers de ce monde ne valent rien. Te rappelles-tu, durant ma vie mortelle, ce foule qui, assoiffé de vérité, me suivait depuis 3 jours sans manger? Eh bien, j'éprouvais une grande compassion pour elles, que je fus contraint d'opérer des miracles. Ces âmes avides de mes paroles m'émouvaient. Mon cœur se dilate. C'est ainsi que j'agis toujours avec ceux qui me désirent et qui me suivent. Le désir que j'ai de rester et d'établir ma demeure auprès de vous, auprès des hommes, auprès de toi, ce désir est tellement grand que chaque fois que vous exprimez un désir semblable au mien, mon cœur se dilate et se met une grande joie de vous contenter. Te rappelles-tu mes paroles avant de célébrer la Pâque, la dernière de ma vie mortelle? J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Je le disais, et pourtant je savais au-devant de quoi j'irais. Mais le désir de m'unir plus intimement aux hommes par l'Eucharistie était si grand que les souffrances les plus cruelles ne l'étouffaient pas. Ô mes enfants, si vous aviez ne fût-ce qu'une pâle idée de mon amour pour vous, rien ne vous retiendrait de courir, de voler pour me rencontrer. Sois donc persévérant dans la voie du bien, impose à ton corps ce qui est bon pour ton âme, même si parfois il se rebelle. Sache que ton corps ne se contente jamais de ce que tu lui accordes. Il te demandera toujours quelque chose de plus, quelque satisfaction plus grande, quelque repos plus prolongé, quelque nourriture ou boisson plus exquise, et il sera toujours insatisfait. Et même plus tu lui accorderas, moins il t'en rendra, et il deviendra toujours plus incapable d'aider ton âme à monter. Le corps à qui l'on accorde tout demeure inerte ou plus simplement incapable de soutenir une compétition. Vois combien de sacrifices s'imposent les sportifs pour pouvoir vaincre. L'agilité du corps habitué au sacrifice donne à l'âme l'agilité spirituelle qui la rend apte à monter, à combattre et à vaincre, et cela toujours bien entendu avec les secours de Dieu à qui l'âme doit sans cesse recourir. Les sommeils spirituels, oui. Ne te laisse pas surprendre par le sommeil spirituel qui est comme une maladie. Demeure toujours sur la brèche, toujours prêt à prendre l'envol, toujours prêt à la rencontre avec ton céleste époux. Dis-toi chaque jour, aujourd'hui je dois travailler, prier, souffrir pour toi, Seigneur. Aujourd'hui est le dernier jour, ce soir tu me donneras la récompense. Ce pourrait être le dernier, tu ne le sais pas. Mais si cette rencontre est attendue et préparée, ce sera toujours la rencontre la plus heureuse une rencontre d'amour qui durera éternellement. La bonté. Écoute-moi, dit Jésus, je te parlerai de la bonté que vous désirez tellement et que vous devriez pratiquer avec tout le monde, à l'imitation des dieux, de votre Père éternel qui est dans les cieux. En effet, Dieu seul est vraiment bon. Généralement, les hommes accomplissent des actes de bonté sporadiques, car leur nature n'est pas portée à la bonté et au bien. La bonté est cette disposition de l'esprit à l'indulgence, au pardon, à la compassion, à la pitié, à la miséricorde. Celui qui est bon craint d'offenser. Il ne garde pas rancune. Il ouvre son cœur à la confiance. Il ne tient aucun compte de son rang ou des différences sociales. Pour l'âme bonne, tout le monde est à l'égalité, les riches et les pauvres. Elle désire aider tout le monde. Il n'est pas de souffrance qui ne trouve un écho profond dans son cœur. Elle voudrait secourir tout le monde, essuyer toute larme, soulager toute plaie, réconforter ceux qui souffrent. Les petits enfants l'attirent, elle se réjouit de leur compagnie. Les vieillards la recherchent parce qu'ils savent qu'elle les comprend. Rendre tout le monde heureux. L'homme bon se réjouit des petites choses. Il se contente de tout. Il accepte tout avec une grande reconnaissance. Il donne tout avec générosité. Il n'attend pas de retour. Il veut rendre tout le monde heureux. Il cache ses larmes, ses soucis, ses douleurs. Il ne veut faire souffrir personne à cause de lui. Il voit tout beau et tout bon. Mais s'il lui arrive de voir le mal, il n'en parle pas pour ne pas le répandre. Il en demande pardon à Dieu et en lui-même il l'excuse ou trouve les motifs pour l'excuser si d'autres en parlent ou bien il se tait. Il ne l'approuve pas, mais connaissant sa propre faiblesse, il craint, en jugeant le mal, d'y tomber lui-même. C'est pourquoi il préfère s'abstenir de parler. Celui qui est bon de cette manière ressemble à Dieu. Je te dis, il ressemble parce que Dieu est la bonté absolue, et même si l'homme s'efforce d'être bon, il ne pourra jamais l'égaler. Tu dois tendre à cette bonté avec toutes les qualités requises que je t'ai énumérées en modelant ton cœur sur le mien, dit Jésus. Dis-moi souvent durant les jours, cœur de Jésus infiniment bon, rends mon cœur semblable au tien. Propose-toi chaque jour d'accomplir quelques actes de bonté, surtout envers les personnes qui t'attirent le moins, pour qui tu nourris de l'antipathie, envers celles qui t'ont fait du mal. Ces actes seront comme les commencements d'une longue chaîne qui peu à peu envahira toute ta vie. Propose-toi d'être toujours meilleur que juste. Tu vois que le Seigneur ne veut pas exercer la justice en cette vie. Tant que vous êtes en ce monde, il est disposé à n'user que de sa miséricorde, et s'il donne quelque avant-goût de sa puissance et de la terreur de sa justice, il le fait seulement parce qu'il veut inviter tous les hommes au bien et à la conversion. Sois toujours bon. Il exercera sa justice dans l'autre vie quand il donnera à chacun ce qu'il mérite. Toi, veux-tu donc devancer Dieu? Non, non, sois toujours bon, sois toujours, soyez toujours, tous bons, vous ne vous en repentirez jamais. Vous avez l'habitude de dire un proverbe qui est très juste, il vaut toujours mieux recevoir le mal que le faire. Il en est vraiment ainsi, celui qui s'efforce d'être bon, toujours et partout, sera plus serein dans la vie. Il en accueillera toutes les vicissitudes avec tranquillité. Il cherchera avec calme à en surmonter les difficultés sans rendre à personne la vie pesante. La bonté est un des attributs de Dieu. Elle est comme un rayon d'un soleil infini qui s'appelle amour. Efforce-toi d'être bon et tu sentiras la chaleur de ce rayon et de ce soleil. Car Dieu est infiniment bon avec tout le monde, mais le bon sent sa tendresse infinie. Il est vrai que pour certains, il n'est pas pénible d'être bon, car ils le sont naturellement, tandis que pour d'autres, il est très difficile de l'être. Mais ce qui compte, c'est l'effort que l'on doit faire continuellement, même si la réussite n'est pas satisfaisante. Quant au mérite, il sera proportionnel à l'effort fourni. De même que le Seigneur pardonne facilement les défauts des caractères, à condition que l'on ne néglige pas de s'en corriger, de même il tient compte aussi du petit effort que fait une âme pour réagir sur elle-même, pour dompter sa nature, même si elle n'y réussit pas toujours. Pense que le Seigneur, dans son immense bonté, fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, qu'il appelle tout le monde à son cœur, qu'il voudrait serrer tout le monde contre lui dans une unique étreinte. Imite-le. Élargis ton cœur et embrasse spirituellement le monde entier dans le désir d'aimer tout le monde et de donner bonté et joie à tous les hommes.